Catéchisme de Trente, chapitre 18e, le sacrement de l'Eucharistie. Ce chapitre se compose de trois paragraphes: l'institution de l'Eucharistie et ses différents noms, la matière du sacrement de l'Eucharistie, et ensuite la forme du sacrement de l'Eucharistie. Parmi les signes mystiques et sacrés institués par notre Seigneur Jésus-Christ pour être comme les canaux fidèles de sa grâce, il n'en est aucun que l'on puisse comparer à l'auguste sacrement de l'Eucharistie. Mais aussi il n'est pas de crime dont les fidèles doivent craindre d'être plus sévèrement punis que de manquer de respect et de piété envers un sacrement qui renferme tant de sainteté, ou plutôt, qui contient l'auteur même et le principe de toute sainteté. C'est ce que l'apôtre avait bien compris et dont il nous a expressément avertis. Car après avoir montré combien est énorme le crime de ceux qui ne discernent pas le corps du Seigneur, il ajoute aussitôt: C'est pourquoi plusieurs parmi vous sont malades et languissants, et plusieurs sont morts. Par conséquent, pour que les fidèles puissent retirer des fruits abondants de grâce et se mettre à l'abri de la juste colère de Dieu, en rendant à ce céleste sacrement les honneurs divins qu'il mérite, il sera nécessaire que les pasteurs développent avec le plus grand soin tout ce qui est capable de faire ressortir davantage la majesté de l'Eucharistie. Paragraphe 1er. L'institution de l'Eucharistie et ses différents noms. Pour faire ressortir davantage la majesté de l'Eucharistie, les pasteurs suivront la marche de l'apôtre saint Paul, qui proteste n'avoir transmis aux Corinthiens que ce qu'il avait appris du Seigneur. Ils expliqueront en premier lieu comment ce sacrement fut institué. Voici ce que l'évangéliste en rapporte, rien de plus clair. Le Seigneur ayant aimé les siens, les aima jusqu'à la fin. Et pour leur donner un gage tout à fait divin et admirable de cet amour, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, il employa pour être toujours avec les siens un moyen incompréhensible et infiniment au-dessus de toutes les choses naturelles. Après avoir célébré la Pâque en mangeant l'agneau pascal avec ses disciples, voulant enfin mettre la vérité à la place des figures et la réalité à la place de l'ombre, il prit du pain, puis rendant grâce à Dieu, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples et leur dit: Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ensuite, il prit pareillement la coupe après avoir soupé et il dit: Ce calice est le Nouveau Testament dans mon sang. Toutes les fois que vous le boirez, faites-le en mémoire de moi. Convaincu qu'il ne pourrait jamais avec un seul mot donner une assez haute idée de l'excellence et de la dignité de ce sacrement, les auteurs sacrés ont essayé de l'exprimer par des dénominations nombreuses. Ainsi, ils l'appellent quelquefois Eucharistie, mot que nous pouvons traduire en français par grâce excellente ou action de grâce. Deux choses qui lui conviennent parfaitement. C'est une grâce excellente, soit qu'il figure la vie éternelle, dont il a été dit la grâce de Dieu est la vie éternelle, soit parce qu'il contient Jésus-Christ, qui est la grâce même et la source de toutes les grâces. C'est encore évidemment une action de grâce, puisqu'en immolant cette victime de toute pureté, nous rendons tous les jours à Dieu d'infinies actions de grâce pour tous les bienfaits dont il nous comble, et spécialement pour le don si parfait de la grâce qu'il nous communique par ce sacrement. De plus, ce nom s'accorde aussi très bien avec les circonstances qui en accompagnèrent l'institution. Car Jésus-Christ, ayant pris du pain, le rompit et rendit grâce. Et David, en contemplant la grandeur de ce mystère, s'écrie: Le Seigneur, le Dieu de bonté et de miséricorde, a perpétué la mémoire de ses merveilles. Il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Mais ce chant, il le fait précéder de celui de l'action de grâce, et il dit: La magnificence et la gloire du Seigneur reluisent dans ses ouvrages. Souvent aussi on lui donne le nom de sacrifice, mais nous parlerons bientôt de ce mystère avec plus d'étendue. On le nomme encore communion, mot évidemment emprunté à ce passage de l'apôtre. Le calice de bénédiction que nous bénissons n'est-il pas la communication du sang de Jésus-Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la participation du corps de Jésus-Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la participation du corps du Seigneur? Car, comme l'explique saint Jean Damascène, ce sacrement nous unit à Jésus-Christ et nous fait participer à sa chair et à sa divinité. Puis il nous rapproche, il nous unit en lui pour ne plus faire de nous tous qu'un seul corps. C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi le sacrement de la paix et de la charité. Et ces mots nous font comprendre combien sont indignes du nom de chrétiens ceux qui entretiennent des inimitiés les uns contre les autres, et avec quel zèle nous devons bannir loin de nous les haines, les dissensions et les discordes qui sont une peste si terrible. D'autant que par le sacrifice quotidien de notre religion, nous protestons hautement que nous voulons avant tout conserver la paix et la charité. Les auteurs sacrés lui donnent encore souvent le nom de viatique, soit parce qu'il est la nourriture spirituelle qui nous soutient dans le pèlerinage de cette vie, soit parce qu'il nous prépare et nous assure le chemin qui conduit à la gloire et à la félicité éternelle. C'est pour cela que la coutume a toujours été observée dans l'Église de ne laisser mourir personne sans l'avoir muni de ce sacrement. Enfin, il y a des pères de l'Église très anciens qui, fondés sur l'autorité de l'apôtre, ont donné quelquefois à l'Eucharistie le nom de scène, parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'institua dans le mystère si précieux pour nous de la dernière scène. Toutefois, il ne faudrait pas conclure de là, de ce mot de scène, qu'il est permis de consacrer ou de recevoir la Sainte Eucharistie après avoir pris quelque nourriture ou quelque boisson. On a toujours retenu et conservé ce salutaire usage, introduit selon les anciens auteurs par les apôtres mêmes, de ne la donner qu'à ceux qui sont à jeun. Paragraphe 2. La matière de l'Eucharistie. Après ces explications sur le sens du mot, il faudra t'enseigner que l'Eucharistie est un véritable sacrement et l'un des sept que l'Église a toujours reconnu et vénéré. D'abord, dans la consécration du calice, il est appelé le mystère de la foi. Ensuite, sans parler de ces témoignages presque innombrables des auteurs ecclésiastiques qui ont constamment placé l'Eucharistie au rang des vrais sacrements, on trouve une preuve de son existence dans sa propre essence. En effet, nous y voyons des signes extérieurs et sensibles. La grâce y est figurée et produite. Enfin, les évangélistes et l'apôtre ne laissent aucun doute de douter que Jésus-Christ n'en soit l'auteur. Or, ce sont là précisément les caractères qui conviennent exclusivement au sacrement, et là où ils se rencontrent, il n'est pas besoin de chercher d'autres preuves. Mais il faut observer avec soin qu'il y a plusieurs choses dans ce mystère auxquelles les auteurs ecclésiastiques ont donné le nom de sacrement. Ainsi, ils ont appelé sacrement la consécration, la communion, et souvent même le corps et le sang de notre Seigneur qui sont renfermés dans l'Eucharistie. Saint Augustin dit que ce sacrement consiste en deux choses, l'apparence visible des éléments et la vérité invisible de la chair et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le même sens que nous disons qu'il faut adorer ce sacrement, c'est-à-dire le corps et le sang de notre Seigneur. Mais il est évident que toutes ces choses ne s'appellent sacrement que d'une manière impropre. Ce nom ne convient essentiellement et réellement qu'aux seules espèces du pain et du vin. On voit par là combien l'Eucharistie diffère de tous les autres sacrements. Ceux-ci ne subsistent que par l'emploi de la matière, c'est-à-dire à l'instant même où ils sont administrés. Le baptême, par exemple, ne s'élève à l'état de sacrement que dans le moment où l'on emploie l'eau pour baptiser quelqu'un. Mais pour compléter et parfaire l'Eucharistie, il suffit de la consécration de la matière, laquelle ne cesse point d'être un vrai sacrement dans le vase même où on la tient en réserve. De plus, dans les autres sacrements, la matière et les éléments employés ne changent point. De plus, dans les autres sacrements, la matière et les éléments employés ne se changent point en une autre substance. L'eau du baptême et l'huile de la confirmation ne perdent point leur nature primitive d'eau et d'huile lorsqu'on administre ces sacrements. Mais dans l'Eucharistie, ce qui était du pain et du vin avant la consécration, change après la consécration et devient véritablement le corps et le sang de notre Seigneur. Cependant, quoiqu'il y ait deux éléments, le pain et le vin, pour faire la matière intégrale de l'Eucharistie, il n'y a qu'un seul sacrement, et non pas plusieurs, selon la doctrine enseignée par l'Église. Autrement, on ne pourrait plus soutenir, avec toute la tradition, avec les conciles de Latran, de Florence et de Trente, qu'il y a sept sacrements, ni plus ni moins. D'ailleurs, la grâce de ce sacrement a pour but de faire de nous tous un seul corps mystique. Mais pour qu'il soit lui-même en harmonie avec l'effet qu'il produit, il faut qu'il soit un, non qu'il ne puisse être composé de plusieurs parties, mais parce que tout doit n'y représenter qu'une seule chose. La nourriture et la boisson, qui sont deux choses différentes, s'emploient pour une seule et même fin, qui est de réparer les forces du corps. Pareillement, il était de toute convenance d'instituer ce sacrement avec deux matières différentes entre elles, mais analogues aux substances dont nous venons de parler, pour représenter l'aliment spirituel qui soutient nos âmes et répare leurs forces. Aussi le Seigneur a-t-il dit: Ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Les pasteurs auront ensuite à expliquer avec un grand soin ce que signifie ce sacrement, afin que les fidèles, en voyant les saints mystères des yeux de leur corps, nourrissent en même temps leur âme par la contemplation des vérités divines que ces mystères rappellent. Or, l'Eucharistie exprime principalement trois choses. La première est une chose passée. C'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous l'apprend lui-même par ses paroles: Faites ceci en mémoire de moi. Puis l'apôtre dit positivement: Toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. La seconde est une chose présente. C'est la grâce divine et céleste que ce sacrement nous communique pour nourrir et conserver nos âmes. Dans le baptême, nous sommes engendrés à une vie nouvelle. Dans la confirmation, nous sommes fortifiés afin de pouvoir résister à Satan et confesser publiquement Jésus-Christ. Mais dans l'Eucharistie, nous recevons la nourriture qui entretient en nous la vie spirituelle. La troisième chose exprimée dans l'Eucharistie est l'avenir. Ce sont les délices et la gloire éternelle dont Dieu a promis de nous faire jouir dans la patrie céleste. Ces trois choses, qui ont évidemment rapport au passé, au présent et à l'avenir, sont néanmoins si bien signifiées par le mystère sacré de l'Eucharistie que le sacrement, quoique composé d'espèces différentes, représente chacune d'elles en particulier comme si elles n'en faisaient qu'une seule. Mais avant tout, il est nécessaire au pasteur de bien connaître la matière de l'Eucharistie, soit afin qu'ils puissent la consacrer eux-mêmes comme l'Église le demande, soit afin qu'ils puissent faire comprendre aux fidèles ce que signifie ce sacrement et exciter dans leur cœur le désir et l'ardeur de recueillir les fruits. Ce sacrement a deux matières. La première dont nous allons parler, c'est le pain de pur froment, puis la seconde que nous verrons plus loin. Les évangélistes saint Matthieu, saint Marc et saint Luc nous apprennent que notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Ceci est mon corps. Dans saint Jean, le Sauveur se donne à lui-même le nom de pain. Je suis, dit-il, le pain vivant descendu du ciel. Mais il y a plusieurs sortes de pain. Tantôt c'est dans la matière qu'il varie. Il peut être de froment, d'orge ou de légumes ou d'autres fruits de la terre. Tantôt ce sont les qualités seules qui seront différentes. L'un renfermera du levain tandis que l'autre n'en contiendra point. Or, pour l'Eucharistie, les paroles de notre Seigneur font voir que le pain doit être de pur froment. Dans le langage ordinaire, ce mot employé simplement et sans modification signifie le pain de froment seul. Une figure de l'Ancien Testament vient encore confirmer cette vérité. Le Seigneur avait ordonné que les pains de proposition qui figuraient le sacrement de l'Eucharistie fussent de pures fleurs de froment. Mais si le pain de froment doit seul être regardé comme la matière de l'Eucharistie, conformément à la tradition apostolique et à l'enseignement formel de l'Église catholique, il est facile de se convaincre que ce pain doit être sans levain, d'après ce que fit notre Seigneur le jour où il institua ce sacrement. C'est en effet le premier des azymes, et chacun sait que ce jour-là, il était défendu aux Juifs d'avoir du pain levé dans leur maison. Si l'on oppose à cette doctrine l'autorité de Saint Jean l'Évangéliste, qui rapporte que tout cela se fit avant la fête de Pâques, il est facile de détruire cette objection. La fête des azymes commençait dès le soir de la cinquième férie, temps où le Sauveur célébra la Pâque. Et ce que les autres évangélistes ont appelé le premier jour des azymes, Saint Jean l'appela la veille de Pâques, parce qu'il crut devoir noter surtout le jour naturel, dont la durée commence au lever du soleil. C'est pourquoi Saint Jean Chrysostome entend par le premier des azymes le jour où l'on devait, sur le soir, manger les azymes. D'ailleurs, la consécration du pain sans levain est en parfaite harmonie avec la pureté et l'innocence de cœur que les fidèles doivent apporter à la réception de ce sacrement. C'est ce que l'apôtre nous apprend par ses paroles. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, comme vous êtes un pain azyme. Car Jésus-Christ est l'agneau pascal immolé pour vous. Célébrons donc notre Pâque, non avec le vieux levain, ce levain de malice et d'iniquité, mais avec les azymes de la sincérité et de la vérité. Cependant, cette qualité pour le pain d'être sans levain n'est pas tellement nécessaire que le sacrement ne puisse exister si elle venait à manquer. Le pain azyme et le pain levé conservent également le nom, les propriétés et toute la nature du pain véritable. Toutefois, il n'est permis à personne de changer de son autorité privée, ou pour mieux dire, d'avoir la témérité de changer la sainte coutume de son Église. Et cela est d'autant moins permis aux prêtres de l'Église latine que les souverains pontifes ont ordonné de ne célébrer les saints mystères qu'avec le pain azyme. Mais en voilà assez sur cette première partie de la matière eucharistique. Remarquons cependant encore, en finissant, qu'on n'a jamais déterminé une quantité particulière de pain pour la consécration, par la raison que l'on ne peut déterminer davantage d'une manière précise le nombre de ceux qui peuvent et doivent participer à ces sacrés mystères. Venons maintenant à l'autre matière de l'Eucharistie. Cette seconde matière est le vin, exprimé du fruit de la vigne, mais auquel il faut mêler un peu d'eau. L'Église catholique a toujours enseigné que notre Seigneur avait employé du vin dans l'institution de ce sacrement, puisqu'il dit lui-même « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à cet autre jour. » Si c'est le fruit de la vigne, remarque Saint Jean Chrysostome, c'est donc du vin et non pas de l'eau, comme s'il avait voulu détruire longtemps d'avance l'hérésie de ceux qui prétendaient que l'eau seule devait être employée dans le mystère de l'Eucharistie. Cependant, l'usage a toujours été dans l'Église de mêler un peu d'eau au vin. D'abord parce que l'autorité des conciles et le témoignage de Saint Cyprien nous apprennent que notre Seigneur le fit lui-même. Ensuite parce que ce mélange nous rappelle le sang et l'eau qui coulèrent du côté de Jésus-Christ. Enfin, l'eau, comme nous le voyons dans l'Apocalypse, représente le peuple. L'eau mêlée au vin exprime très bien l'union du peuple fidèle avec Jésus-Christ son chef. Au reste, cet usage est de tradition apostolique et l'Église l'a toujours observé. Mais quelque grave que soient les raisons de mettre de l'eau dans le vin et bien qu'on ne puisse la supprimer sans péché mortellement, si elle venait à manquer, le sacrement n'en existerait pas moins. Enfin, ce que les prêtres devront bien observer, c'est que si dans la célébration des saints mystères il est nécessaire de mêler un peu d'eau au vin, ce ne doit être qu'en petite quantité, puisqu'au jugement des théologiens, cette eau se change en vin. Voilà pourquoi le pape Honorius écrivait: Il s'est introduit un abus très répréhensible parmi vous, c'est de mettre beaucoup plus d'eau que de vin, contre la coutume très raisonnable de toute l'Église qui est de mettre beaucoup plus de vin que d'eau. Il n'y a donc que le pain et le vin qui soient la matière de l'Eucharistie, et c'est un bon droit que l'Église a défendu par plusieurs décrets d'offrir autre chose que le pain et le vin, comme quelques-uns avaient la témérité de le faire. Voyons maintenant combien les deux symboles du pain et du vin sont propres à représenter la nature et les effets que nous reconnaissons dans ce sacrement. Et d'abord, il nous représente Jésus-Christ comme notre vie véritable. Lui-même n'a-t-il pas dit: Ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Le corps de Jésus-Christ est donc, pour ceux qui le reçoivent saintement et avec piété, un aliment qui donne la vie éternelle. Et par là même, il était de toute convenance que ce sacrement fût constitué précisément avec les éléments qui servent à soutenir la vie présente. Cela fait très bien comprendre aux fidèles que l'esprit et le cœur sont rassasiés par la communion du corps et du sang du Seigneur. Ces deux éléments avaient encore cet avantage qu'ils pouvaient servir à convaincre les hommes de la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Tous les jours, nous voyons le pain et le vin se changer par les seules forces de la nature en notre chair et notre sang. C'est une image qui peut facilement nous amener à croire que la substance du pain et du vin est changée par les paroles de la consécration au vrai corps et au vrai sang de notre Seigneur. Le changement miraculeux de ces éléments peut servir aussi à nous faire entrevoir ce qui se passe dans l'âme. De même, en effet, que la substance du pain et du vin est changée réellement au corps et au sang de Jésus-Christ, quoiqu'il n'y ait aucune apparence visible de ce changement, de même, quoique rien ne paraisse changer en nous au dehors, cependant nous nous trouvons intérieurement renouvelés pour la vie spirituelle en recevant la vie véritable dans le sacrement de l'Eucharistie. Enfin, l'Église est un seul corps, composé de plusieurs membres, dont l'union ne pouvait être plus parfaitement représentée que par les éléments du pain et du vin. Le pain est fait d'une multitude de grains et le vin de plusieurs grappes. Il nous rappelle donc très bien que, si nombreux que nous soyons, le mystère divin de l'Eucharistie nous unit par le lien le plus étroit et fait de nous tous comme un seul corps. Paragraphe 3. Forme de l'Eucharistie. Il nous reste maintenant à parler de la forme qu'il faut employer pour la consécration du pain, non pas qu'il soit utile de livrer ces mystères même au peuple fidèle sans nécessité, puisqu'il n'est pas nécessaire que ceux qui ne sont pas dans les ordres sacrés les connaissent, mais de peur que certains prêtres ne l'ignorent et ne commettent quelque faute considérable dans la consécration. Les évangélistes, saint Matthieu, saint Luc et l'apôtre saint Paul, nous apprennent que cette forme consiste dans ces paroles: Ceci est mon corps. Car voici ce qui est écrit: Pendant qu'il soupait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps. Cette formule employée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même pour la consécration de son corps a été constamment en usage dans l'Église catholique. Nous passons ici sous silence les témoignages des saints-pères qu'il serait beaucoup trop long de rapporter, ainsi que le décret du Concile de Florence que tout le monde connaît. Et nous nous bornons à rappeler encore ces mots de notre Seigneur: Faites ceci en mémoire de moi. Ils établissent clairement le point que nous traitons. Cet ordre qu'il donna à ses apôtres doit se rapporter non seulement à ce qu'il avait fait lui-même, Cet ordre qu'il donna à ses apôtres doit se rapporter non seulement à ce qu'il avait fait lui-même, mais encore à ce qu'il avait dit, et spécialement aux paroles qui furent prononcées: autant pour produire que pour signifier l'effet du sacrement. D'ailleurs, on pourrait encore aisément se convaincre de cette vérité avec la raison. La forme d'un sacrement consiste dans les paroles qui expriment l'effet produit par ce sacrement. Or, les paroles que nous avons citées indiquent et signifient très bien ce qui s'opère dans l'Eucharistie, à savoir le changement du pain au vrai corps de notre Seigneur. Et par conséquent, elles en sont véritablement la forme. On peut entendre dans ce sens ce qui est dit dans l'Évangéliste, qu'il bénit le pain. C'est la même chose, ce semble, que s'il eût dit qu'il bénit le pain en disant « Ceci est mon corps ». Il est vrai que l'évangéliste, avant les paroles que nous venons de citer, dit également « prenez et mangez ». Mais ces deux mots ne regardent que l'usage de la chose, et non la consécration de la matière. Aussi, quoique le prêtre soit obligé de la prononcer, ne sont-elles pas nécessaires à l'existence du sacrement ? Pas plus que la conjonction « car », que l'on prononce néanmoins dans la consécration du corps et du sang de Jésus-Christ. Autrement, s'il n'y avait personne pour recevoir l'Eucharistie, on ne devrait et on ne pourrait même pas la consacrer. Et cependant, il est incontestable que le prêtre qui prononce les paroles du Seigneur suivant l'usage et la coutume de l'Église, sur un pain propre à devenir la matière de l'Eucharistie, consacre réellement et validement cette matière, quand même il arriverait que l'Eucharistie ne soit administrée à personne. Quant à la consécration du vin qui est la seconde matière du sacrement, il faut, pour les mêmes raisons que nous avons apportées plus haut, que le prêtre en connaisse parfaitement la forme. Or, nous devons tenir pour certain qu'elle est ainsi formulée. Ceci est le calice de mon sang, de la nouvelle et éternelle alliance, le mystère de la foi, qui sera versé pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. De ces paroles, plusieurs sont tirées de l'Écriture, et l'Église a reçu les autres d'une tradition apostolique. On trouve dans saint Luc et dans l'apôtre, ceci est le calice, et dans saint Luc ainsi que dans saint Matthieu, de mon sang, ou mon sang de la nouvelle alliance, qui sera versé pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Quant à ces autres expressions éternelles et mystères de la foi, nous les tenons de la tradition, interprète et gardienne de la vérité catholique. Personne ne pourra douter que ces paroles ne soient la forme de la consécration du vin, s'il se rappelle ce que nous avons dit sur la forme de la consécration du pain, car il est certain qu'elle consiste dans les paroles qui expriment le changement de la substance du vin au sang de notre Seigneur. Or, celles que nous venons de rapporter indiquent clairement ce changement, et par conséquent, il ne saurait y avoir d'autre forme que celle-là pour consacrer le vin. Ces paroles expriment en outre quelques effets admirables du sang de Jésus-Christ répandu dans sa passion, et qui appartiennent d'une manière spéciale à ce sacrement. Le premier de ces effets, c'est l'accès à l'héritage éternel, auquel nous donne droit l'alliance nouvelle et éternelle. Le second, c'est l'accès à la justice par le mystère de la foi. Car Dieu a établi Jésus-Christ pour être la victime de propitiation par la foi dans son sang, montrant tout ensemble qu'il est juste lui-même et qu'il justifie celui qui a la foi en Jésus-Christ. Le troisième effet est la rémission des péchés. Mais comme ces paroles de la consécration du vin sont pleines de mystères et qu'elles sont parfaitement appropriées à ce qu'elles expriment, il y a lieu de les examiner avec le plus grand soin. Quand on dit « ceci est le calice de mon sang », ces mots signifient « ceci est mon sang » qui est contenu dans ce calice. Et c'est avec beaucoup de sagesse et de raison que l'on fait mention du calice, en consacrant le sang qui doit être le breuvage des fidèles. Le sang par lui-même n'exprimerait pas assez nettement qu'il doit être bu, s'il ne nous était présenté dans une coupe. Ensuite, on ajoute « de la nouvelle alliance » pour nous faire comprendre que le sang de Jésus-Christ ne nous est pas seulement donné en figure, comme dans l'ancienne alliance dont saint Paul a dit qu'elle ne fut point confirmée sans effusion de sang, mais en vérité et réellement, ce qui ne convient qu'à l'alliance nouvelle. Voilà pourquoi saint Paul a écrit « Jésus-Christ est le médiateur du Nouveau Testament, afin que par sa mort ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Quant au mot « éternel », il se rapporte précisément à cet héritage éternel qui nous est échu par le droit que nous confère la mort de Jésus-Christ, notre testateur éternel. Les mots qui suivent, à savoir le mystère de la foi, n'excluent pas la réalité de la chose. Ils indiquent seulement qu'il faut admettre un effet caché et infiniment éloigné de la portée de nos yeux. Le sens qu'on leur donne ici est tout différent de celui qu'ils ont quand on les applique au baptême. Comme c'est par la foi que nous voyons le sang de Jésus-Christ caché sous l'apparence du vin, c'est pour ce motif que nous l'appelons le mystère de la foi. Le baptême, au contraire, s'appelle chez nous le sacrement de la foi, ou chez les Grecs le mystère de la foi, parce qu'il contient une profession entière de la foi chrétienne. Ce qui fait encore que nous appelons mystère de la foi le sang du Seigneur, c'est que la raison a beaucoup de difficultés et de peines à admettre et à croire, d'après l'enseignement de la foi, que notre Seigneur Jésus-Christ, véritable Fils de Dieu, vrai Dieu lui-même et vrai homme tout ensemble, a souffert la mort pour nous. Or, cette mort nous est représentée par le sacrement de son sang. C'est pourquoi il était de toute convenance de rappeler ici, plutôt que de la consécration du pain, la passion du Sauveur, par ses paroles, qui sera répandue pour la rémission des péchés. Le sang consacré séparément possède beaucoup plus de force et d'efficacité pour mettre sous les yeux de tous la passion de notre Seigneur, sa mort et la nature de ses souffrances. Les autres mots, pour vous et pour plusieurs, sont empruntés les uns à saint Matthieu, les autres à saint Luc. Et c'est l'Église qui, inspirée par l'Esprit de Dieu, les a réunis. Ils servent à exprimer les fruits et les avantages de la passion. Si nous en considérons en effet la vertu et l'efficacité, nous sommes obligés d'avouer que le sang du Seigneur a été répandu pour le salut de tous. Mais si nous examinons les fruits que les hommes en retirent, il est évident que plusieurs seulement et non pas tous en profitent. Lorsque Jésus-Christ dit « pour vous », il entendait par là, à l'exception de Judas, ceux qui étaient présents et à qui il parlait, ou bien les élus d'entre les Juifs tels que ses disciples. En ajoutant « pour plusieurs », il voulait désigner tous les autres élus, soit d'entre les Juifs, soit d'entre les gentils. Ainsi, c'est avec raison qu'il n'a pas été dit « pour tous », puisqu'il s'agissait en cet endroit du fruit de la passion, qui n'a procuré le salut qu'aux élus seulement. C'est dans ce sens qu'il faut entendre ces paroles de l'apôtre « Jésus-Christ n'a été immolé qu'une fois, pour effacer les péchés de plusieurs. » Et ce que dit notre Seigneur dans saint Jean « Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que vous m'avez donnés, parce qu'ils sont à vous. » Il y a encore beaucoup d'autres mystères renfermés dans ces paroles de la consécration. Mais les pasteurs zélés et fidèles à méditer souvent les choses célestes les découvriront aisément d'eux-mêmes avec l'aide de Dieu. Copyright jésusmarie.com le 27 novembre 2009, fichier placé sous licence Creative Commons. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.